Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Qui aurait cru qu'en 2020, dans une société démocratique et ouverte d'esprit comme le Québec, qui aurait cru donc qu'une association des libraires du Québec censurerait le premier ministre? Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire qui a été révélée hier soir. Donc, l'Association des libraires du Québec avait demandé à différentes personnalités, 150 personnalités en tout, de faire une liste de 10 livres de recommandations de livres. Parmi les gens à qui on a demandé ça, il y a eu François Legault, premier ministre du Québec, qui a recommandé, entre autres, un livre de Mathieu Bock-Côté, « L'empire du politiquement correct ». Ben, semble-t-il que ça n'a pas plu à certaines personnes plutôt radicales qui ont fait pression auprès de l'Association des libraires. Et qu'a fait l'Association des libraires? Deux choses. Premièrement, ils ont retiré des médias sociaux la fameuse liste de recommandations du premier ministre. Et en plus, quand vous allez voir sur leur site la vidéo de Monsieur Legault, ben, il y a une petite mise en garde à droite qui nous dit, ben, les opinions de cette personne ne représentent que son opinion à elle. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas l'opinion de l'Association des libraires. Pourquoi? Parce que, écoute, François Legault qui recommande un livre de Mathieu Bock-Côté, voyons, c'est Belzébuth incarné. On va en parler avec Bruno Lalonde. Bruno Lalonde, il est libraire, lui aussi, il a sa propre librairie, le Livre Voyageur, et lui, ben, il y a quelques années de ça, il avait offert justement une tribune à Mathieu Bock-Côté qui était censuré. Donc, c'est pas la première fois que Mathieu est censuré. On va en parler donc avec Bruno Lalonde. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Lalonde.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour. Alors, écoutez, on va d'abord commencer par rappeler, vous, ce qui est arrivé, donc, le 9 mai attendez, je vais juste vérifier l'année, au mois de mai, donc, 2019. Qu'est-ce qui est arrivé à notre bon ami Mathieu Bock-Côté?
Oui. Mais d'abord, je dois préciser, juste me présenter, si vous permettez. Je ne suis pas membre de cette association-là. Moi, je suis un libraire d'occasion et d'ancien, de livres épuisés et de livreurs. Une librairie que je dirige avec ma femme, Fabienne Rock. Alors, je ne fais pas partie de la chaîne ordinaire du livre. Nous, les libraires d'occasion, on est à la marge, si vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait.
Ça me paraît important de le dire et... Donc, je suis un peu embarrassé de commenter le comportement directionnel de cette association-là. Par contre, je serais convaincu que les membres de cette association-là ne partagent pas à l'unanimité le choix qui a été fait. Alors, la journée va être difficile, je pense, pour la direction.
Bon, oui.
Pour en revenir à... Oui, Mathieu Bock-Côté devait organiser une conférence dans une librairie du plateau. Et suite à la pression de militants chevronnés, de militants habitués à organiser, fallait pas dire des radios, mais à organiser, à faire beaucoup de pression auprès de gens qui ne pensent pas comme eux. Alors donc, la conférence, la dite conférence a été annulée. Et nous, on a proposé à Mathieu Bock-Côté de la tenir dans notre librairie. Je dois dire aussi que ça a été un immense succès. Il y avait peut-être 200... Oui, il y avait autour entre 200 et 250 personnes. Et les 10 jours qui ont précédé la dite conférence, je me suis transformé, en tout cas, en personne de relations publiques auprès de Mathieu Bock-Côté, j'ai reçu au bas mot 250 coups de téléphone de gens qui nous félicitaient de tenir la conférence. Et aucun coup de téléphone négatif, et on était convaincus, ma femme et moi, qu'il n'y aurait aucune représailles contre nous.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
C'est parce que ce qu'il faut bien dire ici, c'est que il y en a qui sont tapageurs, il y en a qui qui use d'intimidation. D'abord, le premier mouvement, généralement, quand quelque chose nous déplaît, c'est de le passer sous silence, de faire semblant qu'il existe, que cette chose-là n'existe pas. Premier mouvement, on regarde ailleurs, la chose n'existe pas. C'est évident, avec un chroniqueur, un penseur, un intellectuel comme Mathieu Bock-Côté, c'est évident que cette stratégie-là a ses limites. En deuxième mouvement, on se met en groupe et on intimide. Et l'argument central pour refuser d'une certaine manière l'échange, le dialogue, voire même l'affrontement avec des idées qui nous sont désagréables, c'est de dire que ces idées-là appartiennent au monde dominant. Et que le monde dominant a assez de tribunes pour pouvoir s'exprimer.
Moi, les privilégiés.
Les privilégiés. Mais moi, de mon point de vue de libraire, je vous dirais, il y a des médias mainstream, hein, pour les appeler comme ça, qui s'affrontent assez durement. Et chacun d'entre eux a des soldats, a des soldates qui livrent combat. Mais les librairies, elles, à mon sens, je dirais pas que ce sont des lieux neutres, mais ce sont des lieux où les idées, où les gens qui incarnent ces idées-là puissent, en toute sécurité et librement, les exprimer.
Ben voilà.
Et là, il y a une question de culture aussi. Tout ce phénomène-là de la cancel culture, pour un libraire, c'est impossible. Je prends même ma propre librairie. J'ai une excellente section marxiste qui est très, très couru. Non, vraiment, je suis pas mal bon là-dedans. Oui. Mais en même temps, j'ai une section catholique aussi. Ils sont même presque face à face.
Je comprends vraiment ce que vous voulez dire. C'est que, ben oui, du choc des idées naît la lumière, monsieur Lalonde. C'est aussi le rôle d'un libraire de mettre à la disposition du public, lecteur, des idées diverses. Et après, au choix des lecteurs de décider s'ils sont marxistes ou ils sont catholiques.
Ben, regardez, dans mon cas, moi, chacun des livres que dans la librairie, je les ai choisis. Comme je vous expliquais d'emblée, n'appartenant pas à la chaîne ordinaire du livre. Alors, et j'ai une assez bonne idée des diverses sensibilités qui animent notre société. Et moi, même si je penche de tel ou tel côté, dans mon esprit, il faut donner à boire et à manger à tout le monde. Et cette idée-là de faire de telle sorte que certains livres ne doivent plus exister, pour moi, c'est parfaitement intolérable. Je veux dire, c'est pas possible. Je peux comprendre que des livres sont sujets à caution, alors que des universitaires fasse des appareils critiques, qu'on explique pourquoi tel livre est inquiétant à lire ou qu'on devrait le critiquer, qu'on le fasse. Et c'est des méthodes expéditives, mais ce que je conseille souvent, moi par exemple, ce qui m'intéresse le plus, c'est la culture, donc la langue française. Et souvent, mes jeunes amis qui fréquentent la librairie, je leur dis, prenez exemple sur ces militants-là déterminés. Cédez rien. Organisez-vous. N'ayez pas peur, ne cédez rien. Et ces militants-là, woke, on va dire, ils sont bons, là, ils travaillent bien, ces gens-là. Plutôt que de... Non, mais vraiment, prenons exemple sur eux, mais c'est des vieilles méthodes aussi, les années 70, des profs qui étaient boycottés, des sit-in dans les universités.
Absolument.
Ça existait déjà, là, on n'a pas réinventé la roue. Est-ce qu'il y avait plus de résistance dans les années 70? Peut-être, mais peut-être pas aussi. Mais les idées finissent quand même par se frayer un chemin, hein? Malgré les opposants, malgré les corps d'armée qui s'affrontent, il y a des idées qui finissent quand même par s'incarner.
Mais M. Lalonde, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, dans le texte, dans le journal hier, qui nous annonçait donc cette censure. C'est que les gens de l'Association des libraires du Québec ont cédé parce qu'il y a des gens du milieu littéraire qui ont fait de la pression. Alors, moi, j'aimerais... Mais c'est ça qui me tue. C'est pas juste des militants inconnus, là. Ce sont des gens du milieu littéraire, je le répète, qui ont fait pression. Alors, qui sont ces gens-là qui ont une liberté d'expression à géométrie variable? Si tu penses comme moi, tu peux t'exprimer librement. Si tu penses pas comme moi, ferme ta gueule.
Ouais, mais il y a des gens, le milieu littéraire, c'est un milieu extrêmement rude, hein, où les sensibilités c'est sont vives, là. C'est un milieu souvent dirigé, dominé par les universitaires. Les universitaires, c'est pas des créatures tendres, là. C'est pas...
Ah oui?
C'est pas des gentils nounours, là. C'est pas... Non, ça joue dur. Et ça joue dur en catimini, là, c'est feutré. Pour qu'ils s'énervent comme ça, c'est que là, ils ont... Et puis, il y a de la jalousie aussi. Il faut quand même... Il y a de l'envie, il y a des rivalités. Beaucoup ne supportent pas que certains intellectuels comme Bock-Côté emmènent autant large. Ça, c'est clair. Ils ne le supportent pas. Ils aimeraient avoir son audience. Ils aimeraient avoir son influence. Et il y a des règlements de compte sous-jacents, là.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le succès que Mathieu Bock-Côté connaît en France, il écrit dans différents magazines, il est ami avec, il est reçu sur tous les plateaux quand il va là-bas, que ça crée une jalousie au sein du milieu littéraire ou du milieu intellectuel québécois?
Ben, je vous dirais que oui. Ah oui, ben oui. Ben oui.
Parce
ben
qu'il
oui,
y a pas...
c'est un milieu tellement rude, je veux dire, c'est inimaginable, là. Je veux dire, on pourrait, parce que les intellectuels, les écrivains, c'est des êtres de passion aussi. C'est pas des sages au sommet de la montagne, là. C'est des êtres enfiévrés. Et avec des convictions très, très, très fortes, là, aussi. Alors, évidemment, bon, ben, c'est encore Mathieu qui fait les frais de ça. Mais il va quand même rallier autour de sa personne et de ses écrits, il va quand même rallier beaucoup de gens. Alors moi, je m'interroge sur la stratégie, en tout cas, de faire taire. Ça m'apparaît une stratégie perdante, là.
Mais
il faudrait qu'ils revisent leur méthode, peut-être.
Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a donc le fait qu'on est censuré à cause des écrits de Mathieu Bock-Côté, mais est-ce que les militants, là, les radicaux, reprochent aussi à l'Association des libraires, c'est tout simplement même d'avoir donné la parole à François Legault. Et ce qu'on cite, c'est deux choses. Premièrement, le fait que M. Legault refuse d'accoler l'étiquette de systémique au mot racisme, et on lui reproche aussi supposément des lois racistes. Alors, on peut deviner, on est capable de lire entre les lignes, on n'est pas complètement fou, que c'est à cause de la loi 21. Donc, on est en train de dire, parce qu'on n'aime pas les politiques de François Legault, on ne s'intéresse pas à ses recommandations littéraires. Donc, il n'a même pas le droit d'avoir des livres qu'il aime. Tu sais, il n'a pas le droit d'aimer Marie Laberge parce qu'il fait la loi 21. C'est un espèce de raisonnement complètement niochon, là.
Ouais, puis sans doute aussi, ça doit en embarrasser quelques-uns d'avoir un premier ministre qui lise.
Parce que... Ah oui, vous pensez?
Oui, parce qu'il y a une sorte d'élitisme qui veut que, ben, un politicien ne peut pas ouvrir un livre le soir au terme d'une journée extrêmement éprouvante, puis les journées de François Legault doivent être abominables. Je veux dire, c'est
qu'ils
prennent une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour aller chercher un peu d'oxygène dans cette espèce d'univers covidien, complètement crépusculaire. Ben écoutez, on lui souhaite. Et puis qu'il y ait eu cette générosité-là d'accepter, je me disais, connaissant bien le milieu, je me disais, oh, il va se faire. Il aurait fallu qu'il cite les 1200 écrivains d'Union des écrivains québécois, puis peut-être que ça aurait pas suffi à les apaiser non plus.
Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait.
À partir du moment qu'il a fait tel ou tel choix, c'est sûr que là, il se mettait à dos. Le livre de Bock-Côté a servi de catalyseur. Mais il l'aurait pas fait, peut-être on se serait déchaîné sur le choix de Marie Laberge, par exemple.
Ah oui, mais allez. Peut-être, c'est quand même plus consensuel, Marie Laberge. Mais ce qui est triste, ouais. ce que je trouve triste, M. Lalonde, c'est que dans sa liste, M. Legault, donc, il y avait 10 titres qu'il recommandait. Un de ses titres, c'était Mathieu Bock-Côté. Mais tous les autres titres qu'il recommandait, ils se sont pas posé la question de l'Association des libraires, le tort qu'il causait. Parce qu'imaginez la publicité extraordinaire que ça aurait fait aux 9 autres auteurs. Donc, en fait, on a puni les 9 autres auteurs en retirant la liste des médias sociaux. Eux ont payé le prix d'avoir été associés bien malgré eux, bien sans qu'on leur ait demandé leur opinion. Alors, on est enfin en train de causer du tort à des auteurs qui auraient bénéficié d'une publicité extraordinaire d'avoir été recommandés par Monsieur Legault?
Ben, ça, c'est sûr que la détestation l'a emporté sur l'amour. C'est un peu regrettable, là, parce qu'il faut défendre avec vigueur ce qu'on aime, les auteurs qu'on aime, les gens qu'on aime. Mais si c'est plus important de dénigrer que d'encenser, ben là, il y a peut-être un problème au niveau de notre capacité d'admiration, là. Mais il y a une affaire qui m'a frappé, par exemple. Bon, je suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas membre de cette association-là. Et hier soir, je suis allé lire les commentaires des uns et des autres sur et les gens y appelaient au boycott là, des librairies. Là. J'espère que les gens vont se ressaisir. Les librairies qui sont membres de cette association-là sont pas responsables non plus des choix qu'a fait sa direction, là, qui la représente, en fait. C'est pas de la direction, c'est de la représentation.
Mais en même temps, ils sont responsables, Monsieur Lalonde, de faire savoir publiquement qu'ils se dissocient de cette décision de leur association.
Ah là c'est sûr que c'est là ils se retrouvent, on les coince là, parce qu'ils se retrouvent. Bon, ils se retrouvent, c'est des gens qui, je les connais, les libraires quand même, ils travaillent dur, ils travaillent généralement pour. Il n'y en a pas un qui roule sur l'or, ça se saurait, il y aurait des librairies à tous les coins de rue. Et là, ils se retrouvent comme coincés entre une association, bon, qui se comporte de telle manière, des clients qui vont peut-être les boycotter, d'autres clients qui vont les défendre. Leur job premier, c'est de vendre des livres, là. Et c'est de vendre des livres de tout genre et de toute actualité. C'est pas simple là, dans la situation dans laquelle ils se retrouvent soudainement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que est-ce qu'ils sont tenus de se dissocier de leur association? Écoutez, je sais pas, j'irai peut-être pas jusque-là, mais assurément, les gens, le milieu du livre au Québec est un milieu à la fois fragile, mais à la fois extrêmement dynamique et combatif aussi. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est la passion à l'œuvre. Et c'est assez représentatif du milieu. Mais d'aller punir...
Mais je pense pas qu'il faut faire ça. Moi, ce que j'ai suggéré ce matin...
Quand j'ai lu ça, je me dis, non, on va aller encourager Amazon. Amazon n'a pas besoin d'encouragement, là.
Non, puis écoutez, de toute façon, moi, il y a deux possibilités. Renaud Bré et Archambault ne font pas partie, eux non plus, de l'Association des libraires du Québec, qui regroupe seulement donc les libraires indépendants.
Mais c'est un terme abusif aussi, parce que toutes les librairies agréées, il faudrait dire qu'elles appartiennent pas à une grande chaîne, des petites librairies, mais toutes, d'une manière ou d'une autre, jouissent de subventions, que ce soit un programme informatique.
Je comprends. Archambault et Renaud Bré, dès la sortie du livre, ont quand même à poser une étiquette de coup de cœur sur le livre de Mathieu Bock-Côté. Ce serait bien de s'en rappeler aussi. Et moi, je pense que, de toute façon, le dialogue est toujours la meilleure chose. Alors, allez chez votre libraire préféré, votre libraire local, et discutez avec eux, à savoir, est-ce qu'ils ont le livre de Mathieu Bock-Côté? Est-ce qu'ils cautionnent les décisions de l'association? Et parlons-nous. C'est certainement pas en boycottant, en censurant, qu'on va s'en sortir grandi. Parlons-nous et donnons la parole aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Monsieur Lalonde, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Il n'y a pas de quoi.
Merci beaucoup, donc, Bruno Lalonde, copropriétaire de la librairie Le Livre Voyageur, qui donc l'année dernière avait offert une tribune à Mathieu Bock-Côté, qui n'avait pas pu donner la conférence qu'il voulait dans une autre librairie à cause des menaces justement de gens de l'extrême gauche. Il faut la nommer, hein, cette violence-là ou cette intimidation-là qui vient de l'extrême gauche. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier Sébastien Laperrière, à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Et je vous dis, allez donc lire le livre de Mathieu. Et on se retrouve demain.